ressuscité. À toi la victoire.
Bienvenue à vous tous, mes amis de Cherat, de Herstal, de Blégny, et d'où que vous soyez. Espérons vous savoir tous en bonne santé. C'est avec joie que chaque dimanche nous nous retrouvons sur notre site web pour suivre fidèlement notre culte dominical. Au micro, votre serviteur Henri Van Ardois. Nous voilà rassemblés d'une manière peu commune, à savoir virtuellement. Ce mot, bien actuel, n'est pas biblique, il est vrai, mais la notion réalité virtuelle est pourtant très ancienne. Elle était déjà citée par Platon 420 ans avant Jésus-Christ dans son allégorie de la caverne. Le virtuel est une composante de la réalité. À ce titre, Jaron Lanier, chercheur informaticien pionnier de la réalité virtuelle, le définit comme quasi-réalité. J'aime cette définition car elle nous rapproche plus les uns des autres que de nous éloigner ou nous séparer. Mais avant de poursuivre ce moment de réflexion, prions et mettons ce culte dans les mains de notre Seigneur. Merci Seigneur de la liberté qui nous est octroyée pour exprimer l'amour que nous te portons. Bénis ce moment de communion fraternelle virtuelle avec l'aide de ton Esprit Saint. Qu'il nous aide grâce à ta parole qui nous sera annoncée par Daniel, à nous rapprocher de toi. Mets dans nos cœurs l'optimisme, la joie de vivre et l'espérance d'un futur meilleur. Bénis ceux qui se dépensent sans compter pour contrer cette pandémie. Encourage et soutiens ceux qui souffrent de solitude, de tristesse, de déprime. Apporte-leur espoir, guérison et sérénité du cœur. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Mes amis, je voudrais que nos cultes 2021 soient placés sous le signe de la joie de vivre, la joie de l'espérance, la joie de Christ. Pourquoi ce souhait? Nous avons mille raisons d'être dans la joie pour rencontrer le Seigneur, malgré le confinement et les difficultés que nous vivons tous sans exception. Pour illustrer ce propos, j'ouvre une première lecture par une citation d'un anonyme. Je cite « Vous avez tort de croire que la joie de vivre tient principalement au rapport humain. Vous vous trompez. Dieu a mis la joie de vivre dans tout ce qui nous entoure, dans chaque détail, dans chaque petite chose de la vie quotidienne. Mais pour percevoir ces détails, il suffirait d'ouvrir nos yeux à la beauté de la nature, à nos oreilles, pour se faire percer par la musique, ainsi que de changer de point de vue et d'éclairage. » Fin de citation. Cet auteur inconnu confirme ce que Platon disait. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. La transition est facile, vous en conviendrez, pour vous faire découvrir de Johann Sebastian Bach, l'Allegro du concerto pour quatre pianos, BWV 1065. C'est une œuvre vivante, joyeuse, qui nous mettra dans les conditions pour être prêts à l'écoute de la parole de Dieu. Thank you. Après cette envolée musicale et joyeuse, nous pouvons ouvrir notre Bible et lire dans le psaume 33, les versets 8 à 11. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne, afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, traduisez par le mot chrétien, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. » Écoutons maintenant un cantique avec des cris de joie.
Avec des cris de joie.
Mes amis, restons et soyons optimistes pour notre avenir. Dieu nous demande de lui faire confiance, pour ceux qui le reconnaissent bien sûr. Sinon, comment faire confiance en un roi dont on ne veut pas reconnaître son autorité et encore moins admettre son existence? Je me fais écho du psaume 34, versets 20 à 22. Je cite « Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous tous, comme nous espérons en toi. » Ce qui nous manque le plus, c'est la communion fraternelle avec autrui, c'est-à-dire nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, nos frères et sœurs de l'Église, bref, tout ce qui crée un lien amical et familial, Le tissu social en 2020 s'est déchiré. Mais l'Éternel veille sur ceux qui l'aiment. Rien n'est perdu. Prenons courage, car je lis dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Écoutons ce chant de Christine et Tonino, Garde courage.
Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble habiter dans sa présence et nous crierons de joie. N'abandonne pas, pose tes pieds. chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage.
Que cette année nouvelle soit placée dans la joie de Christ, de lui appartenir, d'être considéré comme enfant de Dieu et non comme un étranger de sa maison. Nous lui appartenons et il prend soin de nous, de chacun de nous. Ésaïe 12, versets 2 et 3, je cite, « Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force » et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Fin de citation. Je voudrais rappeler que nous sommes en synergie avec la paroisse de Schörath et Ederstal et je vous invite à visiter leur site internet et de suivre également les messages apportés par Paolo Faris. J'en profite pour remercier tous ceux et celles qui soutiennent par leurs dons l'église de Blégny via le compte dont le numéro est inscrit sur la page web et son nom mensuel. Que Dieu bénisse la prédication de ce matin ainsi que vous tous, sans exception, et qu'il ouvre nos cœurs à l'écoute de sa parole. Avant de céder la parole à Daniel Zavagno, qui nous apportera le message de ce jour, écoutons Jacqueline interpréter « Ensemble, nous pouvons chanter ».
Merci Henri pour ton introduction. Chers amis, je vous propose maintenant d'écouter une chanteuse qui s'appelle Ancila avec une chanson qui a pour titre L'Adieu. Et cette chanson a été interprétée dans la fresque musicale Jésus de Nazareth à Jérusalem. Et je vous propose vraiment d'écouter cette merveilleuse chanteuse. Bonne écoute.
Sur la croix vers le ciel, sur le bois l'édifice, c'est mon fils. Sur ses bras qui ruissellent, sous le poids du supplice, c'est mon fils. dans les pas de ton père, dans la soie qui te tisse, va mon fils, dans le froid qui te serre, dans ta soif de justice. Ton regard, c'est te garder sans te voir, toi que l'on arrache au monde, le chagrin m'inonde. Faire le deuil de ces moments où nous avions tout le temps de vivre pour tous les
Chers amis, ravis de me retrouver en votre compagnie, même si cela est de façon virtuelle. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous vivons une période particulière de notre vie d'église. Nos églises sont fermées pour cause de pandémie, et nous avons l'impression de vivre la situation que vit l'église persécutée dans le monde. Bien sûr, la comparaison ne reflète nullement la situation de nos frères et sœurs vivant la persécution. Pensons et prions pour ces chrétiens vivant des moments terribles, croupissant dans des prisons qui ne sont nullement des hôtels 4 étoiles, privés de tout confort, de nourriture, mourant de soif, torturés, cela tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Leur famille vivant dans la terreur et l'angoisse. La parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, verset 3, « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. » N'oublions pas nos frères et sœurs dans la foi, éparpillés dans le monde, vivant et subissant des atrocités pour le nom de Jésus. Puissent nos prières monter aux cieux, afin de soulager leurs souffrances. Ne les oublions pas. Pensons régulièrement à eux dans la prière, afin que Dieu intervienne dans leurs souffrances. Je ne veux pas paraître complotiste, c'est le mot à la mode actuellement, mais soyons vigilants. Nous savons que notre ennemi, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, et toutes les occasions sont bonnes pour lui de porter atteinte à notre liberté religieuse. Et si pour le moment nos libertés sont restreintes pour cause de pandémie, soyons vigilants qu'un jour nous ne vivions la même situation que nos frères persécutés dans le monde. Prions Dieu afin qu'il protège son Église, puisque c'est lui qui l'a bâtie. Ceci m'amène à aborder le sujet du jour. J'ai intitulé ce message « Une Église qui souffre, mais une Église qui prie ». Sommes-nous Église de Belgique ? Cette Église sachant se mettre à la prière, car les temps sont mauvais. Je crois sincèrement, cette période que nous vivons doit nous faire réfléchir et nous pousser à plus de prières, et non à maugréer comme tout le monde, contre le gouvernement, contre les médecins, contre le vaccin, contre les médicaments, contre les hôpitaux, etc., etc. Je vous propose donc une lecture afin d'illustrer la prédication d'aujourd'hui. Ce sera une lecture un peu longue, mais bien utile. Cette lecture, nous la ferons dans Actes des Apôtres, chapitre 12, et nous lirons les 19 premiers versets. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre, c'était pendant les jours des pains sans levain. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison, mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi vite !» lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. « Allons !» poursuit l'ange. « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre obéit. Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. Pierre le suivit et sortit, sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et soudain l'ange le quitta. Alors seulement Pierre reprit ses esprits et se dit « Ah, maintenant je le vois bien, c'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains d'Hérode et de tout le mal que voulait me faire le peuple juif. » Après réflexion, il s'en rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de personnes s'y étaient réunies pour prier. Il frappa au battant de la porte. Une jeune servante appelée Rhode s'approcha et demanda qui était là. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle se précipita pour annoncer « C'est Pierre, il est là, dehors devant la porte. » « Tu es folle !» lui dirent-ils, mais elle n'en démordait pas. « Alors c'est son ange, » dirent-ils. Pendant ce temps, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, le virent et en restèrent tout étonnés. D'un geste de la main, Pierre leur fit signe de se taire. Et il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Il ajouta, « Faites savoir tout cela à Jacques et aux autres frères. » Ensuite, il repartit et se rendit ailleurs. Quand le jour se leva, il y eut un grand émoi parmi les soldats. Où donc était passé Pierre ? Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva nulle part. Après avoir fait interroger les gardes, il ordonna leur exécution. Ensuite, il quitta la Judée pour se rendre à Césarée, où il passa quelque temps. Nous remarquons qu'une vague de persécution sévit au sein de l'Église de Jérusalem. Et Jacques en est le premier martyr des 12 apôtres. Et le roi Hérode voit que cela plaît au peuple. La haine contre le christianisme faisait recette en ce temps-là. Frères et sœurs, chers amis, réalisons encore aujourd'hui que nous ne sommes pas particulièrement aimés dans ce monde en tant que chrétiens. Nous sommes tolérés. Le fait de nous déclarer chrétiens provoque souvent la moquerie, voire la haine autour de nous. Et si l'on pouvait fermer définitivement les églises, plus d'un ne verrait pas cela d'un mauvais œil. Si nous lisons ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, les commentaires ne sont pas toujours favorables au christianisme. Et ces commentaires ne sont pas écrits nécessairement par des membres d'une autre religion non chrétienne, par exemple, mais bien diffusés par des Belges qui étaient autrefois de souche chrétienne. Soyons vigilants. En tant que chrétiens, tenons-nous dans la prière, car l'heure est grave pour l'Église. Il y a une vague de christianophobie dont les médias ne nous parlent pas. Soyons vigilants. Mais revenons à notre histoire. La persécution fait rage et comme cela amuse les gens, autant continuer. Et cette fois, c'est l'apôtre Pierre qui en fait les frais. Pierre est donc mis en prison, considéré certainement comme le meneur de la bande de fanatiques chrétiens. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour le surveiller. 16 soldats sont mobilisés en permanence par sécurité, au cas où l'envie de s'évader le prendrait. Et le roi, pour l'exemple, voudrait exhiber devant le peuple ce meneur, le punir et le tuer comme Jacques. Il fallait arrêter à tout prix la propagation de cette nouvelle doctrine subversive. Le récit nous affirme que Pierre était sous bonne garde, aucune chance pour lui de pouvoir s'évader de cette cellule. Comment réagit l'Église ? Nous ne voyons pas de traces de lamentation ni de révolte envers qui que ce soit. Je vois plutôt dans l'attitude des premiers chrétiens une grande maturité spirituelle. Alors que la plupart ne sont pas des chrétiens de longue date, mais les difficultés du moment font qu'il fallait être enraciné dans la foi d'une manière profonde afin de supporter les persécutions du moment. À l'instar des chrétiens de l'Église persécutés dans ce monde actuellement, il faut à ses frères et sœurs une profondeur spirituelle pour tenir ferme au mauvais jour. Et cette Église primitive se met à la prière pour Pierre. Priait-elle pour sa libération ? Priait-elle afin que Pierre puisse affronter sereinement la mort ? Nous ne le savons pas. Mais les prévisions pour la survie de l'apôtre Pierre étaient minces, car l'Église avait déjà perdu bon nombre de ses membres. Sans comparaison aucune avec la situation tragique de l'Église primitive et celle aussi de l'Église persécutée dans le monde aujourd'hui, je nous pose la question à nous, Église occidentale, vivant jusqu'à présent dans la facilité et la liberté. Comment vivons-nous notre situation actuelle, privée de culte en présentiel ? Vivons-nous dans la crainte ? Vivons-nous dans l'angoisse ? Sommes-nous en train de râler ? Ou alors, nous nous mettons sérieusement à la prière afin que Dieu trouve une solution à cette crise profonde ? Prenons exemple sur les chrétiens de Jérusalem. Ils se mettent à la prière. Frères et sœurs, seule la prière fait tomber les montagnes, fait reculer les ténèbres, et ce monde est plongé dans la nuit du péché. Ces chrétiens-là savaient que la prière pouvait faire bouger les choses. Comment ? Ils ne le savaient pas, mais il est certain qu'ils faisaient confiance à Dieu. Nous vivons une période difficile pour ce monde et pour la vie de l'Église. Mettons-nous sérieusement à la prière, afin que Dieu débloque cette situation face à cette pandémie. Bien sûr, nous disons souvent « c'est la fin des temps » et je suis d'accord avec vous, il y a des signes avant-coureurs. Mais nous ne pouvons pas vivre en fataliste. Nous avons une responsabilité de prier pour ce monde et pour l'humanité qui nous entoure, afin que le plus grand nombre vienne à la connaissance du salut en ces temps troublés. Quelle est notre relation avec Dieu en ces temps difficiles? Prenons-nous journellement le temps de rencontrer notre Dieu? Revenons à notre ami Pierre. Que fait-il? Il dort entre deux soldats. J'ai entendu beaucoup de commentateurs bibliques critiquer l'attitude de Pierre. Il s'insurge contre lui en disant « Pierre dort pendant que l'Église prie pour lui ». Personnellement, je vois dans l'attitude de Pierre un homme en paix. Et je ne sais pas si avant de s'endormir, il a pensé aux paroles du psaume 31, du verset 15 au verset 17, où il nous est dit ceci « Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. » Son attitude nous prouve qu'il avait une totale confiance en son Dieu, qu'il n'avait aucune crainte. Quelle leçon pour nous chrétiens du XXIe siècle, nous plaignant facilement quand nous vivons de petites contrariétés dans notre vie. Réalisons que Dieu en ce moment veut nous apprendre quelque chose au sujet de notre foi, de notre confiance en lui. Il veut donner un nouveau souffle à notre vie chrétienne. Frères et sœurs, ne passons pas à côté de la volonté de Dieu pour son Église. Je pense que Dieu permet cette situation difficile que nous vivons en ce moment afin que son Église se fortifie et consolide sa foi. Et nous voyons dans notre récit l'intervention miraculeuse de Dieu afin de libérer son serviteur. Pierre trouvait cela si fantastique, pensant vivre un rêve éveillé. Chers amis, attendons-nous à vivre des choses merveilleuses si nous faisons confiance à notre Dieu. Ne minimisons pas la puissance de Dieu en ces temps où nous vivons entourés de hautes technologies. Il nous suffit d'un simple clic d'ordinateur pour solutionner un problème. Il y a un moment où la science et la technologie sont sans solution, et là, il y a la main de Dieu pour intervenir, afin de nous donner la solution au problème qui nous submerge. Chers amis chrétiens, nous en doutons peut-être, car la science a fait de nombreux progrès en tout point de vue, et je loue mon Dieu pour cela, qu'il a donné à l'homme l'intelligence d'évoluer au niveau de la médecine et pour tout le confort qu'elle nous a apporté. Mais notre Dieu est souverain. Et là où la science et la technologie humaine sont impuissants, Dieu est puissant afin de débloquer les situations les plus inextricables. Et voilà, contre toute attente, notre ami Pierre est enfin libéré, et cela miraculeusement. Que fait-il ? Va-t-il fuir Jérusalem afin de ne plus être poursuivi ? Mais pas du tout. Il va rejoindre l'Église qu'il sait en prière. Il veut leur montrer que leurs prières ne sont pas vaines. Il désire les remercier pour leur intercession sans relâche. Car l'Église n'a pas arrêté un seul instant de prier pour lui. Une véritable chaîne de prières s'est installée en sa faveur. Et Pierre est reconnaissant envers Dieu et l'Église. Une leçon pour nous, la reconnaissance et le remerciement envers Dieu et l'Église doivent être la règle de l'intervention divine en notre faveur. Et Pierre n'y fait ni une ni deux. Il se dirige vers la maison de Marie. Il sait qu'une partie de l'Église est réunie dans la prière en ce lieu. Et il frappe à la porte. Et la servante, dans sa joie, au lieu de lui ouvrir, va annoncer à l'Église en prière la présence de Pierre devant la porte. Et là, je dirais, il y a comme un petit bémol. La joie n'est pas de mise. Ils prennent Rhode pour une folle. Que se passe-t-il au sein de cette communauté en prière? Cela semble tellement énorme. Ils connaissent les situations de détention de l'apôtre Pierre, qu'il lui est impossible de s'évader. Ils doutent de leur prière. Et bien souvent, nous aussi, nous prions et nous disons « Mais c'est impossible que cette demande aboutisse. Cela est tellement difficile d'avoir une réponse favorable. La demande est énorme. Nous oublions que nous avons affaire au Dieu de l'impossible. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. » Romains chapitre 4, verset 17. Et Luc chapitre 1, verset 37 nous affirme que rien n'est impossible à Dieu. Voilà notre Dieu. Il est encore capable aujourd'hui d'accomplir de grandes choses pour chacun de nous. Il peut aussi arrêter cette pandémie. À l'Église de prendre ses responsabilités et de se mettre à la prière, de prier pour ce monde, courant à sa perte, ne reconnaissant pas la puissance de Dieu dans les moments tragiques que nous vivons. Chers amis, ce récit est d'une grande leçon pour nous. Apprenons à faire confiance à notre Dieu. Faisons-lui confiance, ne nous décourageons pas. Croyons en lui. Soyons-en certains, il entend nos prières. Et comme je vous l'ai dit, prenons à cœur la prière, car c'est en priant que l'Église devient victorieuse. Voulons-nous une Église forte, puissante, dans ce monde troublé? Qu'elle ait un poids dans la société, alors prions. Et nous serons plus que vainqueurs malgré les situations difficiles que nous affrontons. Vous allez me dire, mais pourquoi Pierre a été libéré et pourquoi Jacques a été mis à mort? Je ne peux répondre à cette question. Mais sachons que la parole de Dieu est claire. L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, nous dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors aujourd'hui, ayons de plus en plus confiance en notre Dieu. Croyons que lui seul dirige ce monde et son Église. Mettons notre confiance en sa parole. Intercédons sans relâche. Et Dieu agira. Prions. Seigneur, tu connais la situation dans notre pays. Tu connais la situation de l'Église. Elle vit dans une certaine peur et crainte. Dieu Tout-Puissant, visite chacun de nous. Nous voulons être plus que vainqueurs, que ton peuple s'humilie et se mette à la prière. Nous voulons croire que tu vas agir dans les mois à venir. Nous te demandons tout cela dans ton beau nom. Amen. Chers amis, ce fut encore un grand privilège pour moi de pouvoir partager ces quelques moments. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, une nouvelle fois sur ce site de l'Église protestante de Blégny. Chers amis, continuez à prier sans relâche. Priez pour l'Église, priez pour vous-même, priez pour nos frères et sœurs, pour l'Église persécutée, mais que nous puissions vraiment ne jamais nous relâcher dans la prière, et je crois que nous serons plus que vainqueurs, comme les chrétiens ont été plus que vainqueurs dans le cas de Pierre. Et je crois qu'aujourd'hui encore, le Seigneur entend nos prières. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous propose d'écouter un très beau chant qui est interprété par Natacha Saint-Pierre. Le titre, Aimer, c'est tout donner. Bonne semaine, au revoir les amis.
Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et se donner chanter. Sans amour, à quoi bon rire et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même.